Le défilé commence. Une statue de 10 mètres de haut de Mao Tse-tung ouvre la marche. Mao Tse-tung, au-dessus de son portrait géant, assiste du haut de la tribune au défilé de la statue géante de Mao Tse-tung. Les ballons de couleur sont lâchés, le triomphe débute. Cris, musique. Pendant 2h10, par rang de 100, les masses défilent en agitant leurs fleurs en papier. Les musiques se succèdent, se dépassent, s'enchevêtrent. La cadence est la même et les cris étouffent tout. Tout le peuple chinois est représenté là. Et en arrivant devant la tribune présidentielle, les cris deviennent plus aigus, les mains lèvent plus haut les fleurs, les ballons s'échappent qui emportent des nacelles où sont accrochées les banderoles des slogans. Tout est là, sauf l'armée, qui n'apparaît jamais dans les défilés. À 11h10, les masses s'éloignent derrière une haie de drapeaux rouges. Une pause. Et tout à coup, au désordre, succède quelque chose d'impressionnant. La milice y arrive par bataillons serrés, tendus, dressés. Quelques mètres avant la tribune, les jambes se lèvent, les pieds frappent le sol avec une cadence terrible. Leurs armes sur l'épaule, jeunes, ardents, la tête haute. Les corps de la milice représentent la jeune Chine pure et dure, prête à faire face à l'agression. C'est la foi et la volonté qui parlent.
Je rappelle que nous sommes là en 1964. Est-ce que ce regard de Jules Roy vous paraît, en somme, avec le recul, Jean-Luc Domnac, tout armé que vous êtes par les souvenirs des contemporains, par toutes sortes de sources inédites que vous avez débusquées, est-ce que ce regard vous paraît pertinent ?
Je crois que c'est le regard le plus pertinent de tous ceux que nous avons cités, parce qu'il s'est contenté de dire ce qu'il avait vu. Et il ne s'est pas risqué à analyser. C'est quelqu'un qui nous décrit défiler dans un univers totalitaire.
On prend moins de risques, oui.
Et c'est excellent.
Sauf l'armée, dit-il.
Alors, sauf l'armée, parce que l'armée, Mao s'en méfiait, ne voulait pas lui donner trop d'importance, étant donné qu'elle en avait déjà tellement. Puisque sans l'armée, le parti n'était rien. Le parti était au départ une armée politique. Donc l'armée était très contrôlée et sa participation aux faits publics était elle-même très ajustée, on va dire.
Oui, il y avait d'un côté le parti, se détachant progressivement de l'armée,
voilà, c'est ça.
Assurant son emprise sur elle, et de l'autre côté, les fonctionnaires, les administrations, d'un côté... En somme, si je comprends bien, Lin Piao et de l'autre, Zhou Enlai.
Voilà, et Liu Shaoqi. Liu Shaoqi qui est vraiment le grand homme de l'appareil civil, le grand homme du parti.
En somme, Mao Tse-tung se montrait à peu près aussi rarement à son peuple que ne le faisaient les empereurs.
Absolument, peut-être un tout petit peu plus parce que les empereurs apparaissaient vraiment très très peu en public. Mao accordait une ou deux apparitions publiques, parfois un petit peu plus. Mais vraiment, ça ne l'intéressait pas. Et il détestait intervenir, il détestait parler à la radio ou faire des discours. Il s'en fichait. Ce qui l'intéressait, c'était de contrôler les choses. Convaincre n'avait aucune importance. C'était à ses collègues de s'en occuper.
Alors, rentrons promptement à l'intérieur de la cité interdite, cette partie de la cité impériale qui s'appelait Jiangnanhai et qui était réservée à cet univers dont nous parlons. Rentrons avec lui et retrouvons cette présence des femmes. Au premier rang, la femme de Mao Tse-tung que vous avez déjà évoquée.
Il y a les épouses en général et il y a Tianxin, la femme de Mao en particulier. Les épouses, je ne peux pas me défendre d'une certaine admiration pour elles.
Eh bien, exprimez-la.
Parce que c'est extraordinaire quand même. C'est des femmes qui ont été traitées, mais vraiment comme... Dieu merci, on ne traite plus, même en Chine, les femmes. Elles n'ont pas été épousées, elles ont été saisies, elles ont été enlevées véritablement. Et on ne leur laissait pas le choix. Une anecdote, Deng Xiaoping voit une jolie petite poupée qui est dans le... qu'on avait mis aux écritures, dans le service d'espionnage. Parce qu'au moins, elle ne faisait pas de faute d'orthographe.
Il était lui-même tout petit.
Et il était lui-même tout petit, vilain comme un pou. Et il lui fait savoir par des gens très importants qu'il voudrait bien l'épouser. Elle dit, pas du tout, moi je suis là pour servir la révolution et pas ce type-là. D'abord, il est vilain comme un pou. Alors on lui fait savoir qu'il vaut mieux dire oui, compte tenu que, qui est Deng Xiaoping. Alors elle dit qu'au moins, il me fasse une déclaration. Deng Xiaoping, il a envie de lui dire, épouse-moi, c'est tout. Alors ça, elle n'obtient pas. Elle a dit, ben, au moins quand il sera, qu'il m'emmène alors au front. Pas question, j'emmène pas des nanas au front. Alors au moins qu'il m'écrive une lettre tous les soirs. Et elle comprend que très vite ensuite que la lettre c'est l'ordonnance qu'il a fait en nous sommes avançons par tant de latitude est, etc., etc. Et c'est elles comme ça, elles ont été vraiment piquées, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et ben elles ont su ensuite s'imposer dans les familles. Elles ont su élever leurs enfants. Elles ont su s'élever également. Elles ont obtenu d'être le secrétaire puis la directrice du bureau de leur mari. Et à la fin, elles ont acquis beaucoup d'influence. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient quand même 20 ans plus jeunes que les maris. Les maris faiblissaient et elles étaient en pleine forme. Alors, Tianxin, ça, moi, je ne peux pas m'empêcher d'une forme de pitié, voire même de sympathie.
La femme de Mao.
La femme de Mao. Franchement, elle, son enfance s'est déroulée dans des conditions mais effroyables. Sa mère était une femme qui louait ses services, tous ses services, à des riches du coin. Elle était elle-même que la deuxième femme, la petite épouse d'un monsieur qui était un ivrogne. Voilà le milieu dans lequel elle est née, Tianxin.
Elle commence comme starlette.
Et alors elle commence à 13-14 ans, elle fait la starlette, et puis ensuite, pour faire chic, elle joue les Jeanne Moreau, on va dire, elle fait l'intello quand même, elle fait l'intello à Shanghai, et elle joue bien les rôles, quoi. C'était une bonne actrice. Et elle fait des scandales, alors là, c'est le Jeanne Moreau qui tourne mal, hein. Elle fait des petits scandales, etc. Ses amants multiplient, etc. Et elle va un peu loin, et au Parti communiste à Shanghai, on commence à la trouver un tout petit peu pas très morale. Alors là, elle a un culot d'enfer. Elle fuit les communistes de Shanghai pour aller à Yan'an, dans la base rouge, où elle apprend immédiatement que Mao venait de quitter sa favorite, et elle le séduit. Et là, je voudrais recommander aux auditeurs la description que Lucien Baudard fait de tout ça, parce qu'il fallait vraiment le ton de Baudard dans Le Chien de Mao, et il montre comment il avait bien inventé, mais je crois que là, elle a réussi le rôle de sa vie, qui était de séduire Mao. Ensuite, je vais vite, malgré tout, elle a été à deux doigts de réussir. Mao, elle a échangé avec Mao, on va dire sa complaisance devant ses frasques, contre le fait que Mao lui apprendrait la politique. Et franchement, ça aura été son dernier rôle, et je trouve qu'elle a été excellente. Elle est arrivée à deux doigts. Elle aurait été un petit peu plus maligne. Là, il lui a manqué des bons collaborateurs.
Vous voulez dire pour garder le pouvoir après la mort de Mao ?
Après la mort de Mao, en 76. Si elle avait organisé une garde prétorienne, quelque chose comme ça, là, à mon avis, elle avait ses chances. Et il y a des bruits très sérieux, suivant lesquels Mao aurait testé en sa faveur.
Est-ce que vous la rapprocheriez de la dernière impératrice Tsui, qui a régné au tournant du 19e et du 20e siècle, après avoir éliminé en fait l'empereur, et qui a, elle, vraiment régné sur la Chine.
Le parallèle est tout à fait tentant. La différence, c'est que Tsui a gagné, tandis que Tianxin a perdu. Il